Joris Karl Huysmans, La cathédrale, chapitre 2. Depuis 3 mois déjà, Durtal habitait Chartres. Revenu de la trappe, il vécut dans un état d'anémie spirituelle affreux. L'âme gardait la chambre, se levait à peine, traînait sur une chaise longue, somnolée dans la tépidité d'une langueur que berçait encore le ronronnement de prières toute labiale, d'horizon se dévidant comme une machine détraquée, dont le déclic part seul et qui tourne d'elle-même dans le vide sans qu'on y touche. Quelquefois, cependant, pris de révolte, il parvenait à se tenir, à arrêter l'horlogerie déréglée de ses suppliques, et il essayait alors de s'examiner, de se voir d'un peu haut, d'embrasser d'un coup d'œil les perspectives confuses de tout son être. Et devant ces demeures d'âme perdues dans les brumes, il songeait à une étrange association des révélations de Sainte Thérèse et des contes d'Edgar Poe. Les salles de son château interne étaient vides et froides, cernées de même que les chambres de la maison Huchère, par un étang dont les brouillards finissaient par pénétrer, par fêler la coque usée des murs, et il rôdait solitaire et inquiet, dans ces réduits délabrés, dont les portes closes n'ouvraient plus. Ses promenades en lui-même étaient donc circonscrites, et le panorama qu'il pouvait contempler s'étendait singulièrement rétréci, se rapprochait presque nul. Il savait bien, d'ailleurs, que les pièces qui entouraient la cellule située au centre, celles réservées au maître, étaient verrouillées et scellées par d'indévissables écrous, maintenues par de triples barres inaccessibles. Il se bornait donc à errer dans les vestibules et dans les alentours. À Notre-Dame-de-Lâtre, il était allé plus loin, s'était hasardé jusqu'aux enclos qui environnent la résidence du Christ. Il avait aperçu à l'horizon les frontières de la mystique, et sans force pour continuer sa route, il était tombé. Maintenant, c'était lamentable, car ainsi que le remarque Sainte Thérèse dans la vie spirituelle, ne pas avancer, c'est reculer. Et il était en effet revenu sur ses pas. Il gisait à moitié paralysé, non plus même dans les antichambres de ses domaines, mais dans leur cour. Jusque-là, les phénomènes décrits par l'inégalable abbesse restaient exacts. Chez Durtal, les châteaux de l'âme étaient inhabités après un long deuil. Mais dans les pièces encore ouvertes, circulait ainsi que la sœur de l'inquiétant Huchère, le fantôme des péchés avoués, des fautes mortes. Semblable au déplorable malade des Garpeaux, Durtal entendait avec terreur des frôlements de pas dans les escaliers, des cris plaintifs derrière les portes. Et pourtant, les revenants des vieux forfaits ne se formulaient qu'en des figures indécises, ne parvenaient pas à se coaguler, à prendre corps. Le méfait le plus obsédant de tous, celui qui l'avait tant torturé, le méfait des sens, se taisait enfin, le laissait calme. La trappe avait déraciné les souches des anciennes luxures. Leur souvenir le hantait bien parfois dans ce qu'il avait de plus affligeant, de plus ignoble, mais il les regardait passer, le cœur sur les lèvres, s'étonnant d'avoir été si longtemps la dupe de ses malpropres manigances, ne comprenant même plus la puissance de ces mirages, l'illusion de ces oasis charnelles rencontrées dans le désert d'une existence, confinées à l'écart dans la solitude et dans les livres. Son imagination pouvait le supplicier, mais sans mérite, sans lutte. Par une grâce toute divine, il avait pu ne pas mésavenir depuis son retour du cloître. Par contre, s'il était en quelque sorte éviré, s'il était absous du plus gros de ses peines, il voyait s'épanouir en lui une nouvelle ivrée dont la croissance s'était jusqu'alors dissimulée derrière les végétations plus touffues des autres vices. Au premier abord, il s'était jugé moins sous la dépendance des péchés et moins vil. Et il était cependant aussi étroitement attaché au mal. Seulement la nature et la qualité des liens différés n'étaient plus les mêmes. Outre cet état de séquicité qui faisait que dès qu'il entrait dans une église ou s'agenouillait chez lui, il sentait le froid lui geler ses prières et lui glacer l'âme, il discernait les attaques sourdes, les assauts muets d'un ridicule orgueil. Il avait beau se tenir sur ses gardes, chaque fois il était surpris, sans même avoir le temps de se reconnaître. Cela commençait sous le couvert des réflexions les plus modérées et les plus bénignes, à supposer par exemple qu'il eût, en se privant, rendu à son prochain service, ou qu'il n'eût pas nui à une personne contre laquelle il se croyait des griefs, une personne qu'il n'aimait point, aussitôt se glissait, s'insinuait en lui, une certaine satisfaction, une certaine gloriole, aboutissant à cette inepte conclusion qu'il était supérieur à bien d'autres. Et sur ces sentiments de basse vanité, se greffait encore l'orgueil d'une vertu, qu'il n'avait même pas conquise au prix d'efforts, la superbe de la chasteté, si insidieuse celle-là que la plupart des gens qui la pratiquent ne s'en doutent même pas. et il ne se rendait compte du but de ses agressions que trop tard, lorsqu'elles s'étaient précisées, lorsqu'il s'était oublié à les subir. Et il se désespérait de trébucher toujours dans le même piège, se disant que le peu de bien qu'il pouvait acquérir était rayé du bilan de sa vie par les insolentes dépendances de son vice. Il s'exaspérait, se raciocinait, les vieilles démences se criaient à bout de force. « La trappe m'a brisé, elle m'a sauvé de la concupiscence, mais pour m'encombrer de maladies que j'ignorais avant d'avoir été opéré chez elle. Elle qui est si humble, elle m'a augmenté la vanité et décuplé l'orgueil. Puis elle m'a laissé partir, si faible et si las, que jamais depuis je n'ai pu supporter cette exhination, jamais je n'ai pu prendre goût à la réflexion mystique qui m'est nécessaire, si je ne veux pas mourir à Dieu, pourtant. » Et pour la centième fois, il se questionnait. « Suis-je plus heureux qu'avant ma conversion ?» Et il devait cependant bien, pour ne pas se mentir, répondre oui. Il menait une vie chrétienne, en somme, priait mal, mais priait sans relâche au moins. Seulement, ah, ces pauvres demeures d'âme étaient-elles assez vermoulues, assez arides? Et il se demandait avec angoisse si elles ne finiraient pas, comme le manoir de Garpeau, par s'effondrer subitement, un jour de crise, dans les eaux noires de cet étang de péché qui minait les murs. Arrivé à ce point de ses rabâchages, forcément il déviait sur l'abbé Gévresin, qui l'obligeait malgré ses indésirs à communier. Depuis son retour de Notre-Dame de Lattre, ses relations avec ce prêtre s'étaient resserrées, étaient devenues tout intimes. Il connaissait maintenant l'intérieur de cet ecclésiastique, émigré en plein Moyen-Âge, loin de la vie moderne. Autrefois, quand il sonnait chez lui, il ne prêtait aucune attention à la servante, une femme âgée qui saluait silencieuse en ouvrant la porte. Maintenant, il fréquentait la singulière et l'affectueuse bonne. La première entrevue eut lieu un jour qu'il était allé voir l'abbé souffrant. Installée près du lit, elle avait des lunettes en vigie sur le bout de son nez et elle baisait, une à une, des images de piété insérées dans un livre vêtu de drap noir. Elle l'avait invité à s'asseoir, puis, fermant le volume et remontant ses lunettes, elle avait pris part à la conversation et il était sorti de cette chambre, abasourdi par cette personne qui appelait l'abbé « père » et parlait très simplement, ainsi que d'une chose naturelle, de son commerce avec Jésus, avec les saints. Elle paraissait vivre en parfaite amitié avec eux, en causait ainsi que de compagnons avec lesquels on bavarde sans aucune gêne. Puis la physionomie de cette femme, que le prêtre lui présenta sous le nom de Madame Céleste Bavol, était pour le moins étrange. Elle était maigre, élancée, et néanmoins petite. De profil avec le nez busqué, la bouche dure, elle avait le masque désempâté d'un César mort, mais de face la rigidité du profil s'émoussait, dans une familiarité de paysanne, se fondait dans une mansuétude de placide nonne, en complet désaccord avec la solennelle énergie des traits. Il semblait qu'avec le nez impérieux, le visage régulier, les dents blanches et menues, l'œil noir tout en lumière, trottinant, fureteur, tel que celui d'une souris sous de magnifiques cils, cette femme dut, malgré son âge, rester belle. Il semblait au moins que l'union de pareils éléments dût marquer ce visage d'une étampe de distinction, d'une empreinte vraiment noble, et pas du tout. La conclusion démentait les prémices. L'ensemble leurrait l'adhésion, réunit des détails. Évidemment, ce déni provient, pensait-il, d'autres particularités qui contredisent l'entente des principales lignes. D'abord de la maigreur de ses joues couleur de vieux bois, semées çà et là de gouttes défilides, de taches paisibles d'anciens sons. Puis de ses bandeaux de cheveux blancs couchés à plat sous un bonnet à ruche. Enfin de cette modeste tenue, de cette robe noire, mal fagotée, ondant sur la gorge et laissant voir l'armature du corset imprimé au dos en relief sur l'étoffe. Il y a peut-être aussi en elle moins une mésalliance des traits qu'un contraste résolu entre la toilette et la mine, entre la figure et le corps, se disait-il. En somme, en essayant de la condenser, elle sentait et la chapelle et les champs. Elle tenait donc de la sœur et de la paysanne. Oui, c'est presque exact, mais ce n'est cependant pas encore cela. Reprenait-il, car elle est moins digne et moins vulgaire, moins bien et mieux. Vue de derrière, elle est plus loueuse de chaises dans une église que nonne. Vue de devant, elle est beaucoup au-dessus de la terrienne. Il faut bien noter aussi que lorsqu'elle célèbre des saints, elle s'élève et diffère. Alors elle s'exauce dans une flambée d'âmes. Mais toutes ces suppositions sont vaines, conclut-il, car je ne puis la définir sur une brève impression, sur un rapide aspect. Ce qui s'atteste certain, c'est que, tout en ne ressemblant pas à l'abbé, elle se dimidie, elle aussi, et se dédouble. Lui a l'œil ingénu, des prunelles de première communiante, et la bouche parfois amère d'un vieil homme. Elle est hautaine d'apparence, et humble d'âme, et par deux signes opposés, par des traits autres, ils obtiennent le même résultat, un identique ensemble d'indulgence paternelle et de bonté mûre. Et Durtal était retourné bien souvent les voir. L'accueil ne variait point. Madame Bavoy le saluait par l'invariable formule « Voilà notre ami !» tandis que le prêtre riait des yeux et lui pressait la main. Toujours lorsqu'il voyait Madame Bavoy, elle priait devant ses fourneaux lorsqu'elle ravaudait, lorsqu'elle époussetait le ménage, lorsqu'elle ouvrait la porte, partout elle égrenait son rosaire sans trêve. La joie de cette servante, plutôt taciturne, consistait à glorifier la Vierge pour laquelle elle professait un culte, et d'autre part elle citait de mémoire des morceaux d'une mystique un peu bizarre de la fin du XVIe siècle, Jeanne Chézard de Mattel, la fondatrice de l'ordre du Verbe incarné, de cet institut où les moniales arborent un voyant costume, une robe blanche serrée par une ceinture de cuir écarlate à la ceinture, un manteau rouge et un scapulaire couleur de sang, portant brodé en soie bleue, dans une couronne d'épines, le nom de Jésus qu'accompagne avec un cœur en flamme percé de trois clous, ces mots « Amor meus ». Durtal jugeait tout d'abord Madame Bavoy un peu toquée, regardait tandis qu'elle débitait un passage de Jeanne de Mattel sur Saint Joseph, le prêtre qui ne bronchait point. « Mais alors Madame Bavoy est une sainte, lui dit-il un matin qu'ils étaient seuls. « La chère Madame Bavoy est une colonne de prière, répondit gravement l'abbé. Et une après-midi, alors que Gévrezin était à son tour absent, Durtal interrogea cette femme. Elle raconta ses longs pèlerinages à travers l'Europe, des pèlerinages où elle s'était rendue pendant des années à pied, en demandant l'aumône le long des routes. Partout où la Vierge possédait un sanctuaire, elle s'y transféra. Un paquet de linge dans une main, un parapluie dans l'autre, une croix de fer blanc sur la poitrine, un chapelet pendu à la ceinture. D'après un carnet qu'elle avait tenu à jour, elle avait ainsi fait 10 500 lieues à pied. Puis l'âge était venu et elle avait, suivant son expression, perdu de ses anciennes valeurs. Le ciel qui lui fixait jadis par des voies internes l'époque de ses excursions n'ordonnait plus maintenant ses déplacements. Il l'avait envoyée près de l'abbé Gévrezin pour se reposer, mais sa manière de vivre lui avait été indiquée une fois pour toutes. En tant que couchée, une paillasse étendue sur des ais de bois, en guise de nourriture un régime champêtre et monacal comme elle, du lait, du miel et du pain. Et encore, par les temps de pénitence, devait-elle substituer de l'eau au lait. « Et vous ne consommez jamais d'autres aliments ?»« Jamais. » Et elle reprenait. « Ah, notre amie, c'est comme met en pénitence, là-haut. » Et gaiement, elle se moquait d'elle-même et de son allure. Si vous m'aviez vu lorsque je revenais d'Espagne, où j'étais allé visiter Notre-Dame del Pilar à Saragosse, j'étais une négresse, avec mon grand crucifix sur la poitrine, ma robe qui ressemblait à celle d'une religieuse, on se disait de tous les côtés « Qu'est-ce que cette bigote-là » J'avais l'air d'une charbonnière endimanchée, on n'apercevait que du blanc de bonnet, de manchette et de col. Le reste, la figure et les mains, les jupes, tout était noir. Mais vous deviez vous ennuyer à voyager ainsi seul. Que non, notre ami, les saints ne me quittaient pas le long de la route. Ils me désignaient la maison où je recevais pour la nuit un gîte, et j'étais sûr d'être bien accueilli. Jamais on ne vous a refusé l'hospitalité. Jamais. Il est vrai que j'étais peu exigeante. En voyage, je sollicitais simplement un morceau de pain et un verre d'eau, et pour reposer une botte de paille dans l'étable. Et le père, comment l'avez-vous connu? C'est toute une histoire. Imaginez que le ciel me privât par pénitence de la communion pendant 1 an et 3 mois, jour pour jour. Lorsque je me confessais à un abbé, je lui avouais mes relations avec notre Seigneur et avec la Vierge et avec les anges. Aussitôt, il me traitait de folle quand il ne m'accusait pas d'être possédé par le démon. En fin de compte, il refusait de m'absoudre. Bienheureuse encore, lorsqu'il ne me fermait pas brutalement, dès les premiers mots, le guichet du confessionnal au nez. Je crois bien que je serais morte de chagrin si le Sauveur n'avait pas fini par avoir pitié de moi. Un samedi que j'étais à Paris, il m'envoya à Notre-Dame des Victoires, où le père était prêtre habitué. Lui m'écouta, me soumit à de rudes, à de longues épreuves, puis il me permit de communier. Je retournais souvent le voir, en qualité de pénitente, puis la nièce qui tenait son ménage étant entrée en religion, je l'ai remplacée, et voilà déjà près de 10 ans que je suis sa gouvernante. À plusieurs reprises, elle avait complété ses renseignements. Depuis qu'elle ne vagabondait plus à l'étranger et en province, elle fréquentait à Paris les pèlerinages qui avaient lieu en l'honneur de la Sainte Vierge, et elle nommait les sanctuaires achalandés. Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Bonne-Espérance à Saint-Séverin, et tout aide à l'abbaye au bois, de paix chez les religieuses de la rue Picpus, des malades à l'église Saint-Laurent, de bonne délivrance une Vierge noire provenant de l'église Saint-Étienne des Grès, chez les dames Saint-Thomas de Villeneuve, rue de Sèvres, et hors Paris, les madones de banlieue Notre-Dame des Miracles à Saint-Maur, des anges à Bondy, des vertus à Aubervilliers, de bonne garde à Longpont, Notre-Dame de Spire, de Pontoise, etc. Une autre fois encore, comme il doutait de la sévérité des règlements que lui imposait le Christ, elle répliqua. « Rappelez-vous, notre ami, ce qui advint à une grande servante du Seigneur, à Marie d'Agreda. Étant bien malade, elle céda aux instances de ses filles spirituelles et suça une bouchée de volaille. Mais elle en fut aussitôt réprimandée par Jésus, qui lui dit « Je n'aime pas que mes épouses soient délicates. Eh bien, je risquerais de m'attirer de pareils reproches si j'essayais de toucher à un morceau de viande ou de boire une goutte de café ou de vin. » Il est pourtant bien évident, pensait Durtal, que cette femme n'est pas folle, elle n'a rien ni d'une hystérique, ni d'une démente, elle est bien frêle et sèche, mais à peine nerveuse, et en dépit du laconisme de ses repas, elle se porte très bien, n'est même jamais souffrante, et elle est de plus femme de bon sens et ménagère admirable. Levée dès l'aube, après s'être approchée du sacrement, elle savonne et blanchit elle-même le linge, fabrique les draps et les chemises, raccommode les soutanes, vit avec une économie incroyable, tout en veillant à ce que son maître ne manque de rien. Cette sagace entente de la vie pratique n'a aucun rapport avec les vésanies et les délires. Il savait encore qu'elle n'avait jamais voulu accepter de gage. Il est vrai qu'aux yeux d'un monde qui ne rêve que de larcin permis, le désintéressement de cette femme pouvait suffire pour attester sa déraison. Mais contrairement à toutes les idées reçues, Durtal ne pensait pas que le mépris de l'argent impliquât nécessairement la folie. Et plus il y réfléchissait, plus il demeurait convaincu qu'elle était une sainte pas bégueule, indulgente et gaie. Ce qu'il pouvait constater aussi, c'est qu'elle était très complaisante pour lui. Dès sa rentrée de la trappe, elle avait de toutes les manières aidé, lui accordant le moral quand elle le voyait triste, allant malgré ses protestations passer en revue ses vêtements lorsqu'elle soupçonnait qu'il y avait des sutures à opérer, des boutons à coudre. Cette intimité était devenue encore plus complète depuis l'existence mitoyenne qu'ils avaient tous les trois menée en voyage, alors que Durtal les avait, sur leur instance, accompagnés à la salette. Et, subitement, cet affreux train-train faillit cesser. L'abbé s'éloignait de Paris. L'évêque de Chartres venait de mourir, et son successeur était l'un des plus vieux amis de Gévresin. Le jour où l'abbé Letillois des Mauflaines fut promu à l'épiscopat, il supplia Gévresin de le suivre. Ce fut pour le vieux prêtre un rude débat. Il se sentait malade, fatigué, propre à rien, désirait au fond ne plus bouger, et d'un autre côté, il manquait de courage pour refuser à Monseigneur des Mauflaines son pauvre concours. Il tenta d'attendrir sur sa vieillesse le prélat qui ne voulut rien entendre. Concéda seulement qu'il ne le nommerait pas vicaire général, mais simple chanoine. Gévresin secouait toujours doucement la tête. Enfin, l'évêque eut le dessus, en faisant appel à la charité de son ami, en affirmant qu'il devait accepter, au besoin, ce poste, ainsi qu'une mortification, qu'une pénitence. Et quand le départ fut résolu, ce fut au tour de l'abbé à investir Durtal, à le décider de quitter Paris pour aller s'installer auprès de lui à Chartres. Encore qu'il fût navré de ce départ, qu'il avait d'ailleurs combattu de son mieux, Durtal regimbait, refusait de s'ensevelir dans cette ville. « Mais voyons, notre ami, fit Madame Bavoil, je me demande pourquoi vous vous entêtez à vouloir vous enterrer ici. Vous y vivez en pleine solitude, dans vos livres. Vous vivrez de même avec nous. » Et comme à bout d'argument, après une charge à fond de train contre la province, Durtal répliquait « Mais à Paris, il y a les quais, il y a Saint-Séverin, Notre-Dame, il y a de délicieux couvents. » L'abbé riposta « Vous trouverez aussi bien à Chartres. Vous y aurez la plus belle cathédrale qui soit au monde, des monastères tels que vous les aimez, et quant aux livres, votre bibliothèque est si bien fournie qu'il me paraît difficile que vous puissiez en flânant sur les quais la croître. D'ailleurs, vous le savez mieux que moi, l'on ne déniche aucun livre de la catégorie de ceux que vous cherchez dans les boîtes. Ces volumes-là ne figurent que sur les catalogues de librairie, et dès lors, rien n'empêche qu'on vous les envoie partout où vous serez. Je ne vous dis pas. Mais il y a autre chose sur les quais que des bouquins, il y a des bibelots à regarder, la Seine, il y a un paysage. Eh bien, si la nostalgie vous vient de cette promenade, vous prendrez le train et longerez toute une après-midi les parapets du fleuve. Il est facile d'aller de Chartres à Paris. Vous avez soir et matin des express qui effectuent le trajet en moins de 2 heures. Et puis, s'écria Madame Bavoil, il s'agit bien de cela. Ce dont il s'agit, c'est d'abandonner une ville semblable à une autre pour habiter le territoire même de la Vierge. Songez que Notre-Dame de Souterre est la plus antique chapelle que Marie ait en France. Songez que l'on vit près d'elle, chez elle, et qu'elle vous comble de grâce. Enfin, reprit l'abbé, cet exil ne peut contrarier en rien vos projets d'art. Vous voulez écrire des vies de saints, ne les travaillerez-vous pas mieux dans le silence de la province que dans le brouhaha de Paris ? La province d'avance, elle m'accable, s'écria Durtal. Si vous vous doutiez de l'impression qu'elle me suggère, et sous quelle apparence d'atmosphère, et sous quel aspect d'odorat elle se présente. Tenez, vous connaissez dans les vieilles maisons ces grands placards à deux battants, dont l'intérieur est tendu de papier bleu, toujours humide. Eh bien, je m'imagine, au seul mot de province, en ouvrir un et recevoir en plein visage la bouffée de renfermé qui en sort. Et si je peux parachever cette évocation par la saveur, par le flair, je n'ai qu'à mâcher ces biscuits que l'on fabrique maintenant avec je ne sais quoi et qui sentent la colle de poisson et le plâtre sur lequel il a plu dès qu'on y goûte. Que je mange de cette pâte fade et froide en reniflant un relent d'armoire et aussitôt la cinéraire image d'un district perdu me hante. Évidemment, votre Chartre pue ça. Oh, oh, s'exclama Madame Bavoil. Mais vous n'en savez rien puisque vous n'avez jamais visité cette ville. Laissez-le dire, fit l'abbé qui riait. Il reviendra de ses préventions, et il ajouta. Expliquez ses inconséquences. Voici un Parisien qui aime si peu sa cité qu'il choisit pour habiter le coin le moins bruyant, le plus obscur, celui qui ressemble plus à un quartier de province. Il a horreur des boulevards, des promenades fréquentées, des théâtres. Il se confie dans un trou et se bouche les oreilles pour ne pas entendre les rumeurs qui l'entourent. Et alors qu'il convient de perfectionner ce système d'existence, de mûrir dans un silence authentique, loin des foules, alors qu'il importe de renverser les termes de sa vie, de devenir, au lieu d'un provincial de Paris, un Parisien de province, il s'ébaudit et s'indigne. Le fait est, pensait Durtal une fois seul, le fait est que la capitale m'est sans profit. Je n'y vois plus personne et je serai réduit à une solitude encore plus absolue quand mes amis l'auront quitté. Au fond, je serai tout aussi bien à Chartres. J'y étudierai à l'aise, dans un milieu paisible, dans les parages d'une cathédrale autrement intéressante que Notre-Dame de Paris. Et puis une autre question dont l'abbé Gévoisin ne parle pas, mais qui m'inquiète moi, se pose. Si je demeure seul ici, il me faudra chercher un nouveau confesseur, errer dans les églises, de même que j'erre dans la vie matérielle à la recherche des restaurants et des tables d'hôtes. Ah non, j'ai assez à la fin de ces « au jour le jour » de nourriture corporelle et morale. J'ai mis mon âme dans une pension qui lui plaît, qu'elle y reste. Enfin, il y a encore un argument. Je vivrai à meilleur compte à Chartres. Et là, en ne dépensant pas plus qu'ici, je pourrai m'installer confortablement, manger les pieds sur mes chenets, être servi. Et il avait fini par se résoudre à suivre ses amis. Avait arrêté un assez vaste logement en face de la cathédrale, et lui qui avait toujours été si à l'étroit dans de minuscules pièces, il savourait enfin la joie provinciale des vastes chambres, des livres étalés sur les murs à l'aise. De son côté, Madame Bavoil lui avait découvert une servante familière et bavarde, mais brave femme au fond et pieuse. Et il avait commencé sa nouvelle existence dans l'étonnement continu de cette extraordinaire basilique, la seule qu'il ne connut point sans doute parce qu'elle était située près de Paris et que, semblable à tous les Parisiens, il ne se dérangeait guère que pour effectuer de plus longs voyages. Quant à la ville même, elle lui parut dénuée d'intérêt, ne possédant qu'une promenade intime, un petit quai où, dans le bas des faubourgs, près de la porte Guillaume, des lavandières chantent en savonnant devant un cours d'eau, qu'elles fleurissent avec des touffes irisées de bulles. Aussi prit-il la décision de ne sortir que le matin dès l'aube ou le soir. Alors il pouvait rêvasser seul dans une ville qui était, l'après-midi déjà, à peu près morte. L'abbé et sa gouvernante étaient, eux, installés dans l'évêché même. À l'ombre de l'abside de la cathédrale, ils occupaient au-dessus d'écuries abandonnées un premier et unique étage composé d'une série de pièces froides et carrelées que l'évêque avait fait mettre à neuf. Quelque temps après leur arrivée à Chartres, l'abbé avait répondu à Durtal, qui le voyait soucieux, « Oui, sans doute, je traverse un moment difficile, j'ai à dissiper des préventions, je m'y attendais d'ailleurs, et c'était encore là un des motifs pour lesquels je désirais ne point quitter Paris, mais la Sainte Vierge est si bonne, déjà tout s'arrange. » Et Durtal, insistant, « Vous pensez bien, dit-il, que la nomination d'un chanoine étranger au diocèse n'a pas été considérée d'un œil indifférent par le clergé de Chartres. Cette méfiance envers le prêtre inconnu qu'un nouvel évêque amène est bien naturelle en somme. L'on craint forcément qu'il ne joue auprès du prélat le rôle plus ou moins occulte d'une éminence grise, Aussi, tous se tiennent sur le regard et ils filtrent Tamie, ses moindres paroles, épluchent ses moindres actes. Puis, figure-t-il, n'est-ce pas une bouche de plus à nourrir sur la maigre pitance que l'État concède? Pour cela, non, je ne touche aucun bénéfice, et par conséquent, je ne lèse les intérêts de personne. Je ne l'ai pas accepté, d'ailleurs. Le seul avantage que je retire de ma présence auprès de sa grandeur, c'est de ne point avoir de loyer à payer, puisque je suis logé gratuitement dans les dépendances de l'évêché. Je n'aurais pu être salarié du reste, car le traitement dévolu par le gouvernement aux chanoines n'existe plus depuis une loi de finances du 22 mars 1885 qui a décidé la suppression de ces émoluments par voie d'extinction. N'émarge donc sur les fonds destinés aux besoins du culte que ceux qui étaient titulaires avant la promulgation de la loi. Ils vont s'éteignant peu à peu, et l'on prévoit aisément le moment où aucun chanoine ne sera plus rétribué par l'État. Dans certains diocèses, l'on remplace ces subsides perdus par l'argent d'une fondation pieuse, ou si vous aimez mieux, d'une prébende. Il n'y en a point à Chartres. Tout au plus, le chapitre dispose-t-il d'une vague pécune qu'il partage entre ceux auxquels on ne confie aucun emploi, ce qui leur fournit bon an mal an par tête, une somme d'environ 300 francs, et c'est tout. Il n'y a donc pas de casuel pour les chanoines? Pas. Je me demande alors de quoi ils vivent. S'ils n'ont aucune fortune, ils vivent plus pauvres que les derniers des ouvriers à Chartres. La plupart qui végètent, les uns célèbrent la messe dans des communautés, sont aumôniers des couvents, mais cela ne rapporte presque rien, 200-250 francs peut-être. Un autre remplit les fonctions de secrétaire général de l'évêché, ce qui lui vaut un appartement et des gages qui peuvent s'élever à 600 francs. Un autre encore dirige la semaine religieuse, la voie de Notre-Dame de Chartres, et est supérieur de la maîtrise. Quelques-uns enfin sont commis dans les bureaux de l'ordinaire. Chacun s'ingénie, en résumé, à se procurer un gîte et à manger du pain. Au fond, qu'est-ce au juste qu'un chanoine? En quoi consistent ses attributions? Quelles sont ses origines? Ses origines, elles s'égarent dans la nuit des âges. On croit savoir que des collèges de chanoines existaient sous Pépin le Bref. On n'ignore pas, du moins, que sous le règne de ce roi, Saint Quadragan, évêque de Metz, assembla tous les clercs de son église, les obligea de demeurer ensemble dans une maison commune, ainsi que dans un cloître, et les assujettit à une règle que Charlemagne rappela dans ses capitulaires. Ses attributions, elles consistent à célébrer solennellement les offices canoniaux et à diriger les processions. En conscience, tout chanoine est forcé d'abord de résider dans les lieux où est située l'église, dont il est un des mandataires, ensuite d'assister aux heures canoniales qui s'y célèbrent, enfin de participer aux réunions que tient le chapitre à certains jours. Pour dire la vérité, leur rôle est maintenant à peu près nul. Le concile de Trente les nommait Senatus Ecclesia, le sénat de l'église. Ils étaient alors le conseil nécessaire de l'évêque. Aujourd'hui, les prélats ne les consultent même plus. Ils ne trouvent une parcelle de leur ancienne prérogative que lorsque le siège pastoral devient vacant. Alors le chapitre supplée l'évêque, et encore ses droits sont-ils singulièrement restreints. Comme il n'a point de caractère épiscopal, il ne peut exercer aucun des pouvoirs qui en dépendent. Il ne saurait par conséquent conférer les ordres ou donner la confirmation. Et si la vacance se prolonge? Alors il prie l'évêque d'un diocèse voisin d'ordonner les séminaristes ou de confirmer les enfants qu'il lui présente. En somme, vous le voyez, ce n'est pas un seigneur de grande importance qu'un chanoine. Je ne parle pas ici, bien entendu, des chanoines honoraires ou des chanoines d'honneur. Ceux-là n'ont aucune obligation à remplir. Ils sont pourvus d'un simple titre honorifique qui leur permet de porter la mosette avec l'agrément de leur évêque, dans le cas très fréquent où ils font partie d'un autre diocèse. Quant au chapitre même de Chartres, il aurait été fondé au VIe siècle par Saint Lubin. Il était alors composé de 72 chanoines, et le nombre s'accrut encore, car lorsque la Révolution survint, il s'élevait au chiffre de 76 et comptait 17 dignitaires, le doyen, le sous-doyen, le chantre, le sous-chantre, le grand archidiacre de Chartres, les archidiacres de Bosse-en-Dunois, de Dreux, de Pinceret, de Vendôme, de Blois, le chambrier, le chancelier, les prévôts de Normandie, de Mésinger, d'Ingres, d'Auvers et le chefsier. Nobles et riches, pour la plupart, ces prêtres formaient une pépinière d'évêques et possesseurs de toutes les maisons qui entourent la cathédrale, ils vivaient indépendants dans leurs cloîtres, étudiant l'histoire, la théologie, le droit canon. À l'heure actuelle, c'est une vraie déchéance. L'abbé se tut, et secouant la tête, il reprit. Pour en revenir à mes moutons, j'ai naturellement un peu souffert de la froideur que l'on me montra dès mon arrivée dans cette ville. Je vous l'ai dit, j'avais bien des appréhensions à rassurer, et j'y suis parvenu, je crois. Puis je loue Dieu de m'avoir prêté un auxiliaire précieux en la personne d'un vicaire de la cathédrale qui m'a vaillamment servi auprès de mes confrères, l'abbé Plomb. Vous le connaissez ? Non. C'est un prêtre très intelligent, très lettré, qui adore la mystique, qui est très au courant de la cathédrale dont il raffole et dont il a scruté tous les coins. Ah, mais il m'intéresse, ce vicaire-là. Voyons, il figure peut-être parmi ceux que j'ai déjà remarqués. Comment est-il ? Un petit, jeune, pâle, un peu grêlé, coiffé de cheveux coupés en brosse avec des lunettes reconnaissables à cette particularité, la branche posée sur le nez à la forme d'une anse, ou si vous aimez mieux, dessine l'arc des deux jambes d'un cavalier chevauchant sa monture. C'est celui-là. Et quand il fut seul, Durtal rumina, songeant à ce vicaire qu'il avait aperçu souvent dans l'église ou sur la place. Certes, fit-il, on risque toujours de se tromper lorsqu'on apprécie les gens sur les apparences. Mais combien la vérité de ce lieu commun apparaît extraordinaire quand il s'agit du clergé. Cet abbé Plomb, il a l'air d'un sacriste effaré. Il bâille à l'on ne sait quelle corneille, et il semble si mal à l'aise, si jean-jean, si gauche, et il serait allétré, aimant la mystique et amoureux de la cathédrale. Décidément, il est sage de ne pas peser un ecclésiastique sur sa mine. Maintenant que je suis destiné à vivre dans ce monde-là, il importe que je m'allège de tout préjugé, que j'attende de bien connaître les prêtres de ce diocèse avant de me permettre de les juger.